Au quotidien, avec Hélène Denis.
C'est le 8 octobre. Non, le 8 octobre 2025, mercredi. Bonjour Mathieu Tessier.
Il faut pas me faire ça, Hélène.
Pourquoi?
Parce que là, je vais passer la journée à dire 8 et octobre. Merci beaucoup.
Oui, hein, vous êtes allergique au vers d'oreille ou très sensible au vers d'oreille.
Et aux deux.
Oui, aux deux. Bon, bien, merci beaucoup d'être là, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, au menu, les impatients ont inauguré, dis-je bien, leur grand atelier de Montréal le 1er octobre dernier avec l'exposition « Ailleurs, ici ». Et on va en parler avec Sophie Fouron, qui est la nouvelle porte-parole de l'organisme Les Impatients. Les Impatients qui vient en aide aux personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression « artistique ». Aussi, qu'est-ce qu'on aura? Des nouveautés en chanson avec notamment Émilie-Claire Barlow. Christiane Campagna sera avec nous, chargée de communication chez Bibliopresto. Tout ce que vous souhaitez et devez savoir au sujet de prêts numériques, c'est la suite de sa chronique qu'elle a amorcée la semaine dernière. Et puis, nos chroniqueurs tombent au combat. En tout cas, Serge Bradet se soigne chez lui. Peut-être qu'il nous écoute avec sa boîte de mouchoirs à ses côtés. Et puis, Isabelle Falardeau, elle, est là au bout du fil et en pas performe, hein, Isabelle?
Ah oui, je dirais 75 %, là.
OK, bon. Alors, c'est quoi le slogan, là? An apple a day, keep the doctor away?
Une pomme par jour éloigne le docteur pour toujours.
Oui, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, vous allez parler de pommes aujourd'hui.
Mais je vais vous faire découvrir des variétés. En tout cas, moi, j'ai découvert vraiment des variétés. L'article n'était pas menteur. Des pommes étonnantes à se mettre sous la dent. Donc, c'est pour... peut-être que vous aviez prévu de profiter du long week-end de l'Action de grâce pour aller aux pommes. Alors, je vais vous donner des idées de pommes, peut-être pour changer là, des Macintosh et des...
Des Cortland.
Ouais. Alors, ouais, vous allez découvrir des belles variétés là, bien d'ici, bien développées ici.
Bien, on a bien hâte de vous entendre. Ouais. Vous allez parler aussi de betteraves.
Bien, parce que c'est aussi la saison des légumes racines. On commence à faire les réserves pour l'hiver. Alors, j'ai un petit article là, qui va vous donner des 3 recettes pour utiliser vos betteraves.
On va vous écouter avec grand, grand plaisir et peut-être on va saliver, j'imagine.
Un peu d'appétit, je pense.
Oui, merci beaucoup. On part avec un beau succès souvenir dont on ne se lassera jamais.
Derrière un
Françoise Hardy, comment te dire adieu?
Oui, un texte de Serge Gainsbourg. À la une du Devoir, 2 heures de camaraderie sans aboutissement réel. Donald Trump s'est montré très aimable mardi avec le premier ministre canadien Mark Carney et a vanté beaucoup de progrès dans les difficiles discussions commerciales entre leurs deux pays, mais sans offrir de concessions concrètes. S'il a abondamment complimenté son invité, le dirigeant républicain n'a pu s'empêcher de plaisanter à nouveau sur une fusion entre les deux pays, un scénario qu'il a plusieurs fois évoqué et que Mark Carney rejette absolument. Guerre à Gaza, l'experte de l'ONU qui bouscule le monde, c'est un article de Magdalene Boutros. Ses prises de position dérangent parfois, allant même jusqu'à susciter des condamnations. Depuis 2022, Francesca Albanese défend les droits des Palestiniens à titre d'experte indépendante de l'ONU. Dans un nouvel ouvrage, elle raconte le combat de ce peuple pour exister en nous plongeant dans ses expériences personnelles et ses rencontres marquantes. Je trouve que le monde a toujours été insensible aux souffrances des autres. On parle de droits de la personne, mais on ne voit pas la souffrance qu'on inflige aux plus faibles, souligne la juriste italienne en entrevue avec Le Devoir. Quand le monde dort, récit, voix et blessure de la Palestine, Francesca Albanese relève la dissonance entre les principes du droit international et la réalité brutale des rapports de force sur le terrain en Palestine. Israël maintient une occupation illégale de type colonial visant à perpétuer la dépossession, la privation et l'assujettissement du peuple palestinien, écrit-elle. Plus loin, Israël est l'occupant, la Palestine l'occupé. Israël est le colonisateur, la Palestine la colonisée. Ce système de domination et de ségrégation est inscrit dans les lois, faisant d'Israël un régime d'apartheid, soutient la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de la personne dans les territoires palestiniens occupés. Et pourtant, la communauté internationale reste coite et normalise ces violations flagrantes du droit international. Un autre titre à la une du Devoir, on parle de patrimoine. Québec coupe sa corde à un violon Stradivarius. C'est Jean-François Nadeau qui raconte cette histoire. Le gouvernement du Québec souhaite renoncer à un rare violon Stradivarius de 1733, acquis lors d'une souscription nationale en 1947. En raison de son histoire en lien avec le Québec, il avait été classé objet patrimonial en 1978. En septembre, Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture et des Communications, a signé un avis d'intention pour procéder au déclassement du violon Stradivarius, Desrosiers et de l'archet François Tourte. Ces instruments précieux étaient en la possession de la violoniste Angèle Dubois. Le ministre de la Culture et des Communications détermine que ces objets ne présentent plus un intérêt public, justifiant le maintien de leur statut juridique, indique Québec dans un document officiel. L'avis du ministère a été donné le 12 septembre. Quiconque le souhaite a 60 jours pour formuler une objection à cette démarche des représentants de l'État. Pour quel motif l'État québécois juge-t-il soudain que ce violon ne constitue plus un bien collectif d'importance? Les motifs ne sont pas vraiment précisés dans le document signé par Mathieu Lacombe. On passe au Journal de Montréal. Des bougons ont tout volé. Ils sont moins drôles que les bougons quand même. Des locataires voleurs condamnés. Un couple qui n'en est pas à ses premières frasques a été condamné après avoir pratiquement tout volé d'une maison meublée qu'il louait à Lévis. Nous avons vendu ce que nous avions comme immeuble locatif et avons laissé tomber ce domaine. C'est trop dur avec des gens dans ce style-là et c'est trop de risques, laisse tomber au journal Michael Loisel, toujours sous le choc. Ce propriétaire a loué durant plusieurs mois une demeure, entièrement meublée, située sur la rue de Laurier à la famille de Steve Routier et Marie-Claude Vendette. Mais en avril 2021, le couple, qui a au moins 5 enfants, a pris la poudre d'escampette sans payer son dernier loyer de 1 500 $. Ils ont aussi emporté avec eux la quasi-totalité des biens de la résidence située dans le secteur Saint-Nicolas. Le locataire a retrouvé sa propriété dégarnie, entre autres, de sa laveuse, sa sécheuse, son lave-vaisselle, son congélateur, sa tondeuse, sa télé et même de ses tuyaux d'aspirateur central. En gros, ça nous a coûté très cher pour, au final, ne rien recevoir du tout, se désole M. Loisel. Celui-ci affirme s'être fait voler 95 % de ses biens à l'époque et a porté plainte aux policiers en avril 2021 pour dénoncer le cambriolage. Après plusieurs années d'attente, Steve Routier, 31 ans, et Marie-Claude Vendette, 32 ans, ont récemment été reconnus coupables à la Cour du Québec pour cette affaire. Et puis, à la une de la presse plus, tragique histoire. Mon fils voulait vivre. Le jeune Arsène Sarukhanian a cogné à plusieurs portes pour obtenir de l'aide psychologique. En vain, il a essayé partout, mais personne ne l'a aidé. Récit d'un parcours du combattant à l'issue malheureuse. C'est l'histoire donc de Arsène, étudiant à l'École de technologie supérieure à Montréal. Il souffrait de cyberdépendance. Il a tout fait pour s'en sortir, mais il n'y est pas arrivé. Il n'a pas eu l'aide nécessaire, raconte Gabriel Duchesne. Arsène a réclamé de l'aide partout où il a pu. L'étudiant de 20 ans, dépressif et suicidaire, a sollicité 7 organismes et établissements de santé. Tous l'ont laissé tomber. Il a fini par se donner la mort.
Pour se faire engueuler, on n'est pas venu jusqu'ici pour se faire chier. On se disait justement que la vie c'est décevant, que tout s'éteint usé par le poids du temps. Si t'es du genre à juger ceux qui crient la liberté, à juger les gens qui savent s'amuser, pas de problème avec nous, t'as qu'à dire et on s'en fout, on va s'en aller où le ciel est plus doux. Désolé mais il fallait pas nous inviter. Désolé mais il fallait pas nous inviter. Se justifier, on ne cherche surtout pas la vérité. Y'a un milliard de couleurs, autant de parfums de fleurs, qu'on est libre ou pas d'aimer et d'apprécier. Si t'es du genre à juger ceux qui crient la liberté, à juger les gens qui savent s'amuser, pas de problème avec nous, t'as qu'à dire et on s'en fout, on va s'en aller où le ciel est plus doux. Désolé mais fallait pas nous inviter. Désolé mais fallait. On n'est pas venu jusqu'ici pour se faire engueuler. On n'est pas venu jusqu'ici pour se faire chier.
Des coiffes, Pierre Lapointe en nouveauté avec Voyou. Fallait pas nous inviter. Et il raconte qu'il était chez Voyou le lendemain d'une soirée parisienne très branchée où il avait trouvé les gens, disons, spéciaux. Il lui a tout raconté et ils ont beaucoup ri tellement qu'ils ont écrit cette chanson sur deux mecs qui se retrouvent à un endroit où ils ne sont pas du tout en phase avec l'énergie ambiante. Musicalement, ça a été naturel pour eux d'aller vers la musique brésilienne, en particulier celle de la fin fin des années 60, début 70, qui est très présente dans l'univers de Pierre Lapointe et dans le travail de Voyou. Alors voilà, pour Fallait pas nous inviter, qui est accompagné d'un vidéoclip qui sera disponible le 17 octobre prochain. Là-dessus, on joint Isabelle Falardeau et sa première chronique de deux. Vous allez nous parler aujourd'hui des pommes et des betteraves et on commence avec les pommes.
Exactement. Alors, des pommes étonnantes à se mettre sous la dent. C'est donc cet article de Florence Doncos qui est paru dans la presse le 4 octobre. Parce qu'il faut savoir que c'est encore le temps pour aller aux pommes. Si vous avez voulu profiter du long congé qui s'en vient, c'est vraiment le bon moment. Et donc, excusez-moi, petit chat dans la gorge. On nous parle de 8 variétés de pommes moins connues et qu'on peut toutes récolter en octobre, selon Madame Doncos. Apparemment, les gens préfèrent maintenant les pommes sucrées et qui sont très fermes. C'est Gaétan Gilbert qui nous en parle. Gaétan Gilbert qui... on ne vous dit pas encore c'est qui. Il semble qu'on le dit plus tard dans l'article. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un du verger Le Gros-Pierre, un des vergers, en tout cas, dont qu'on a consulté pour rédiger l'article.
Oui, c'est le copropriétaire du verger Le Gros-Pierre.
Ah, voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça. Lui, il dit que, d'après lui, on a peut-être apporté certains goûts de leur voyage. Par exemple, en Europe, où les pommes acides sont plutôt réservées à la fabrication de cidre et non pas à la consommation humaine. En tout cas, la baisse de la popularité de la Macintosh donne un aperçu de ces changements, puisque la Macintosh, elle est effectivement un petit peu acide. Alors, au verger de la montagne, on vend très peu de Macintosh, il en reste très peu au verger. On essaie d'attirer la clientèle avec d'autres goûts. Et le verger de la montagne, tout comme le verger Le Gros-Pierre, fait partie du collectif de la pomme de demain. Alors, c'est eux qui créent ces nouvelles pommes québécoises. Des pommes bien de chez nous et qui ont aussi permis de diversifier la récolte des pommiculteurs parce que maintenant, on a des pommes qui sont prêtes tout le long de la saison, donc une saison qui s'étire sur 14 semaines. C'est quand même assez grand. C'est peut-être pas autant que les fraises, mais ça s'en vient, je pense. Et selon Gaétan Gilbert, l'avenir est dans les nouvelles saveurs. Et donc, on commence par parler de la rosinette. Aviez-vous déjà entendu parler de la rosinette?
Jamais, mais là, je la vois, elle est tellement jolie.
Elle est vraiment belle, donc elle porte bien son nom, comme vous pouvez le constater. Un épiderme qui tire vers le rose, parsemé de stries. C'est une pomme de forme un peu allongée qui se mange bien en compote et qui a une texture vraiment onctueuse, une couleur légèrement rosée, donc j'imagine que c'est pour la chair. J'en ai pas mangé encore, donc... Mais j'ai hâte vraiment d'y goûter si jamais c'est possible. Le verger Le Gros-Pierre, c'est à Compton et on peut y retrouver cette variété-là depuis une douzaine d'années. C'est une création donc du collectif La Pomme de Demain et leur mission, c'est de créer une diversité de pommes adaptées au climat d'ici. Mais là, je ne sais pas si c'est quoi, ça c'est vraiment une parenthèse, c'est pas dans l'article, mais je ne sais plus c'est quoi le climat d'ici. J'imagine que ça veut dire qu'il faut qu'on s'ajuste aux baisses et aux changements de température abrupts de l'automne, parce que c'est vraiment notre réalité maintenant depuis un bon bout de temps. Mais en tout cas, la rosinette est apparemment une pomme disponible dès la fin septembre et qui est passe-partout. La liberté. Aussi, c'est des noms vraiment intéressants. Donc, apparemment, c'est une pomme, c'est la plus croquante de toutes les pommes. Ça, c'est selon Nathalie La Bonté, qui, elle, est copropriétaire du verger La Bonté de la pomme à Oka. C'est une pomme qui ressemblerait un peu à la Macintosh, rouge, avec un peu de vert, de grosseur moyenne et un goût acide et mi-sucré. C'est une variété qui est généralement offerte à la fin de septembre. Et c'est une pomme qui a été hybridée aux États-Unis dans les années 1960 pour sa résistance à la tavelure, qui est une maladie causée par des champignons, une des maladies qu'on retrouve souvent pour les pommiers. Et en cuisine, on la privilégie apparemment pour la fabrication de gelée parce que ça tient très bien et perd beaucoup d'eau.
La gelée de pomme, c'est tellement bon.
Oui, effectivement. Ensuite, on a un autre nom très, très... poétique, je trouve, la méo-penchée.
Comme la chanson des Girolas.
Oui, Daniel Duchesne, qui est copropriétaire du Verger de la Montagne, l'appelle la sucrète. Il la trouve sûre, mais sucrée en même temps. C'est une variété qui a été créée en 2003 par la pomme de demain. C'est un croisement de Delcorf et de Cortland. Donc, Delcorf, je ne connaissais pas. Cortland, c'est une de nos pommes...
Classique. Un classique, ouais.
Et apparemment, elle offre un bel équilibre acide-sucre, On la reconnaît à sa forme cylindrique et sa couleur rouge sur un fond jaune strié. Elle est juteuse et croquante et on peut la récolter vers la première semaine d'octobre.
Et contrairement à la chanson Méo Penché, concernant la pomme, s'écrit en un seul mot.
Oui, exactement. Mais comme ça se prononce.
Oui.
Ensuite, la Golden Russet. Peut-être que celle-là, vous en avez déjà entendu parler.
Ouais.
Moi, ça me dit quelque chose. Mais en même temps, c'est peut-être juste parce que ça me fait penser à la pomme de terre Russet et à la pomme Golden.
Oui, oui. Je pense que c'est comme ça pour moi aussi.
Donc, elle est prête vers le début d'octobre et très réputée pour les tartes aux pommes, apparemment. Une pomme sucrée, croquante, aromatique. Elle se transforme bien en cuisine. Et elle est aussi souvent utilisée pour les assemblages de cidre. C'est un ancien cultivar américain. Et donc, c'est des pommes dorées, comme son nom l'indique, dont la pelure est peut-être un peu rude sous la langue à cause de sa rousselure. Mais quoi qu'il en soit, il y en a qui ne jurent que par elle.
Ah oui.
Ensuite, on a la picotine. Donc, qu'est-ce qui différencie la pomme picotine? C'est son petit calibre. C'est une mini-pomme jaune.
Elle a des
avec
picots.
Des picots rouges, oui, c'est ça. Elle ressemble un peu à une pomme jaune délicieuse. Mais
picotée.
Plus petite et picotée. Voilà, comme son nom l'indique. Pas grosse, mais tellement goûteuse. Elle est très fruitée avec un arôme de poire et une belle pointe d'acidité, apparemment. Bien croquante. Elle a été créée en 2015 par le collectif québécois La Pomme de Demain. Sa mère, c'est la Royal Gala et son père, la Cortland. Apparemment. Et là, maintenant que je... Comme dit ça, la Royal Gala, ben maintenant, je l'avais lu tout à l'heure, mais effectivement, là, elle ressemble un petit peu, hein. Et la Royal Gala, moi, j'ai souvent trouvé qu'elle avait des petits accents de poire. Je sais pas vous, mais moi, c'est une de mes pommes préférées parce qu'elle est très croquante.
Moi, j'ai jamais vraiment adhéré à ce petit goût de poire-là. J'aime ça qu'une pomme goûte la pomme.
Goûte la pomme, oui.
Ouais.
Moi, j'aime ça. Ben, de temps en temps, ça fait changement. Puis les poires, c'est moins agréable à manger, je trouve, que les pommes. Alors, c'est fun de retrouver le goût de la poire, mais avec une texture de pomme. Mais ça, c'est
pas ça. Ah oui, mais moi, une bonne poire mûrie à point, là, c'est difficile à battre.
C'est ça. Et donc, cette petite picotine, on peut la cuisiner. Elle fait apparemment une très belle compote. Et elle est disponible vers la dernière semaine d'octobre. Donc, ça va bientôt être le temps de la récolter. Et ensuite, on a une pomme qui doit effectivement être cultivée en octobre, puisque son nom, c'est...
L'octobre.
Son nom, j'imagine que c'est parce que on peut la cultiver maintenant. Ceux qui penchent davantage vers les pommes traditionnelles vont être agréablement surpris par la pomme octobre, apparemment. Elle est très, très ronde, de deux couleurs, rouge et verte. Et là, c'est pas qu'elle est rouge et verte, là, c'est soit rouge, soit verte, d'après moi, parce que sur la photo, on voit vraiment une belle pomme bien rouge. Elle ressemble à une McIntosh, mais en plus ferme. La variété offerte vers la deuxième semaine d'octobre possède aussi une bonne acidité. Et elle aussi un fruit de la pomme de demain. Dans ce cas, on a croisé un hybride de New Jersey avec un semis au hasard.
Ah.
J'adore ça.
On fait des expériences.
On est tombé là-dessus. Ouais, voilà. Et ça a eu un bon succès. On peut la consommer comme on le ferait avec une McIntosh ou une Cortland, crue pour la cuisson, comme pour une tarte aux pommes ou pour une compote. Par contre, il faut l'utiliser rapidement après l'avoir coupée parce qu'elle oxyde rapidement.
Mm-hmm. Comme la plupart des pommes.
Oui. Effectivement, mais vous allez voir, il y en a une, là, celle qu'on garde pour la fin, c'est justement une pomme qui s'oxyde très peu. Mais pour commencer, je vais vous parler de l'Oyacée. L'Oyacée, ça s'écrit O avec un accent, 2.IASE. Et vous allez comprendre, c'est parce que c'est le fruit de la collaboration entre le collectif, donc la pomme d'un homme, et la communauté Mohawk de Kanesadagé. Donc, c'est un mot qui est probablement en Kanyen, en tout cas la langue Mohawk.
On prononce Oyacée. O-trait d'union Y-K-I-A-S-S-E, accent aigu.
Voilà. Et donc, le verger de la montagne récolte ses fruits depuis 3 ans. C'est une pomme sucrée, juteuse. Qui révèle cette fois-ci des arômes semblables à ceux de la prune jaune.
Ah.
Et sa conservation est incroyable. Apparemment qu'on peut la conserver au frigo pendant plus de 6 mois.
C'est long, ça?
Et elle se tient aussi très bien lors de sa transformation. Donc, elle est bonne pour les croustades, les tartes et les gelées. Et on termine ce palmarès par la Passionata.
Wow!
La Passionata, c'est une des dernières pommes récoltées en octobre, vers la troisième semaine du mois, mais la patience requise pour la récolter est pleinement récompensée.
Ah,
parce
ouais.
que oui, c'est encore une fois une variété créée par la pomme de demain. Selon Gaétan Gilbert, ça fait capoter le monde. La pomme goûte les fruits tropicaux, le fruit de la passion et le raisin muscat. Ça explose en bouche.
Une pomme qui contient plusieurs fruits, finalement.
Exactement. Ça, c'est selon Gaétan Gilbert du verger Le Gros-Pierre. C'est la reine des pommes, notre plus gros vendeur. Selon Geneviève Huard, elle, du verger de la montagne. J'imagine que c'est deux vergers donc où on peut la retrouver. Et donc, elle est très grosse, de couleur jaune légèrement orangée sur la face ensoleillée. Donc, il y a toujours un côté de l'arbre qui est plus exposé au soleil. Et elle est très prisée par les connaisseurs. Et il y a plusieurs même qui la commandent d'avance. Pour la transformation, elle est très polyvalente. Et elle a un grand atout, c'est ce dont je vous parlais. Elle s'oxyde à peu près, ne s'oxyde à peu près pas.
Ah.
Donc, ça, c'est vraiment spécial pour une pomme. En jus, apparemment, c'est merveilleux. Onctueux comme du nectar. Et au verger de la montagne, un chocolatier fait même son caramel aux pommes avec cette variété. Alors, j'ai vraiment, vraiment eu... J'ai le goût de toutes les goûter, bien sûr, mais la Passionata, c'est clairement celle qui a le plus éveillé ma curiosité.
Bien, Gaétan Gilbert a l'air d'être passionné par la Passionata.
Ouais, vraiment, c'est ça. Donc, je vais essayer de trouver un verger qui l'offre et peut-être y goûter et vous en donner des nouvelles, qui sait.
Mais on aimerait bien. En tout cas, ça a l'air que c'est disponible, que cette pomme est disponible au verger Le Gros-Pierre.
Oui, puis le verger de la montagne aussi. Là, c'est les deux qui sont cités, qui en parlent donc de cette pomme-là dans l'article. Là.
On garde ça en mémoire.
Voilà.
Merci. Vous écoutez Au quotidien, on est ensemble jusqu'à 11h à venir une chanson de Le Panda et on continue avec Isabelle Falardeau qui va parler maintenant dans la prochaine chronique de betterave.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Ça fait partie de la game, oh, je... ces histoires qui ne viennent à rien. Fallait pas jouer un jeu trop dangereux. Fallait pas jouer un jeu trop dangereux. Maintenant on paye.
Dangereux, une chanson de Le Panda.
Après nous avoir parlé de pommes étonnantes, un autre titre où le mot pas étonnant, mais surprenant maintenant. Trois recettes pour en faire plus avec les surprenantes betteraves.
Tout Isabelle. À fait. C'est un article de Nadine Deschenaux qui est paru dans le Journal de Montréal le 5 octobre. Et c'est ça, on va commencer à accumuler des légumes racines, des betteraves. Si vous avez comme moi un abonnement avec un panier de légumes, là, c'est ce qui va être de saison bientôt. Et donc, si vous avez, vous demandez quoi faire avec toutes ces betteraves-là, bien, on a trois recettes de betteraves, mais d'abord, trois raisons de les aimer. Alors, si vous ne le saviez pas, ce légume racine serait parmi les champions quant à son pouvoir antioxydant. Donc, évidemment, ça en fait un protecteur pour les maladies cardiovasculaires, les cancers et certaines maladies chroniques. Ensuite, on peut aussi manger les feuilles de la betterave. Et ces feuilles sont une source de vitamines A, E, C, K et B.
Oui, avec un peu de beurre, là, ça goûte les épinards.
Voilà, exactement. Aussi du manganèse et du cuivre, donc on peut les manger en salade. Et finalement, la chair et les feuilles contiennent de la lutéine qui soutient la santé oculaire. Donc, trois bonnes raisons de manger des betteraves. Et là, j'ai trois recettes. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous parler des trois. Je pourrais commencer par celle que moi, j'ai déjà faite.
Non, mais allez-y avec les trois, vous avez du temps.
Parfait. Alors, on commence par les betteraves marinées. Une marinade bien épicée, ça, je ne l'ai pas essayé encore, grâce à la cannelle et le clou de girofle. Donc, on peut les servir en accompagnement toute l'année si on en fait une bonne provision. C'est, les trois recettes sont tirées de recettes du Québec. Donc, les ingrédients, c'est 10 livres de betteraves, 5 à 6 oignons, 2 à 3 bâtons de cannelle, 10 à 12 clous de girofle, 5 tasses de jus de cuisson, donc on va garder le jus de cuisson des betteraves, 5 tasses de vinaigre, ça va être pour votre marinade, donc le jus de cuisson et le vinaigre, 3 tasses et 3 quarts de sucre, beaucoup de sucre, et 5 cuillerées à table de sel. Donc, on commence par faire cuire les betteraves environ une heure ou un peu plus jusqu'à tendreté. Évidemment, c'est des tout petites betteraves, vous allez les faire cuire moins longtemps, mais en moyenne, là, ça va être une heure ou un peu plus. On laisse tiédir les betteraves. Ensuite, on les égoutte et tout en prenant soin, comme on a dit plus tôt, de réserver 5 tasses de leur jus de cuisson passé au tamis, parce qu'il va peut-être avoir des petits morceaux là, de queue de betterave ou en tout cas de petites impuretés qui vont être là. Ensuite, on épluche les betteraves, on les coupe en morceaux.
On met un tablier parce que c'est salissant.
Oui, ça serait probablement effectivement la première étape. Et donc, on met tous les ingrédients au feu et on amène à ébullition. Donc, tout le reste des ingrédients, on laisse bouillir 5 minutes. On retire les oignons, les bâtons de cannelle et les clous de girofle. Un petit truc pour faciliter le retrait des clous de girofle, on peut les faire bouillir dans un coton de fromage, donc les envelopper. Comme ça va être plus facile de les enlever. On met le tout dans des pots stérilisés. Ça donne environ 6 pots de 1 litre ou 12 petits pots.
Ils auraient dû appeler ma mère. C'est elle qui fait les meilleures betteraves de la planète.
Ah ben, je confirme.
Merci, Mathieu.
et si vous prévoyez faire la recette de gâteau, ben, en faisant cuire vos betteraves, vous pouvez garder quelques betteraves cuites pour le gâteau.
Un gâteau betterave, c'est comme un gâteau carotte, un peu dans le genre?
Oui, exactement. Oui, 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 tout à fait. Et c'est, mais ça a une couleur spectaculaire.
Ça doit.
La betterave, hein. Et donc, il y a un petit truc, je ne sais pas si où qu'on le donnait, mais en tout cas, le truc pour éplucher vos betteraves, là, c'est vraiment de les plonger dans l'eau froide un moment après les avoir fait cuire. Puis ouais. Ensuite, on les pèle à la main dans l'eau. Donc, on les laisse en dessous de l'eau et on fait tout simplement une pression sur la pelure. Puis ça,
ça fait,
la
fait tout seul.
Voilà. Donc, pour le gâteau aux betteraves, on a une demi-tasse d'huile végétale, une tasse de sucre. Moi, j'en ai mis moins du sucre, là, parce qu'honnêtement, c'est très sucré, la betterave. Ça dépend là, du type de betterave, mais puis ça dépend des goûts de chacun.
On n'est pas obligé de suivre la recette by the book, si vous me permettez l'expression.
Exactement. Deux jaunes d'œufs, deux cuillères à table d'eau chaude, une cuillère à thé de vanille, trois quarts de tasse de betterave cuite râpée, et on a la même quantité, donc trois quarts de tasse de carottes crues râpées. Donc là, vous avez le mélange des deux. Une tasse et demie de farine, deux cuillères à thé de poudre à pâte, un quart de cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de cannelle, une demi-tasse de noix de Grenoble hachées. Et ça, c'est facultatif. Évidemment, moi, j'en ai pas mis parce que je suis allergique aux noix de Grenoble et je les ai pas remplacées par autre chose. J'aurais pu essayer avec des amandes hachées, mais je trouvais que c'est très bon comme ça. Mon fils aime pas ça quand il y a des morceaux durs dans du gâteau. Ensuite, on a deux blancs d'œufs, donc les mêmes blancs d'œufs de nos jaunes d'œufs tout à l'heure, on les garde parce qu'on va aussi les utiliser dans la recette. Dans un grand bol, on mélange l'huile, le sucre, les jaunes d'œufs, l'eau chaude et la vanille. On ajoute les betteraves et les carottes, on mélange. Ensuite, dans un autre bol, donc là, on réserve ce mélange-là, dans un autre bol, on tamise ensemble la farine, la poudre à pâte, le sel et la cannelle, donc les ingrédients secs. Et ensuite, on incorpore les ingrédients secs au premier mélange. Si on a choisi d'ajouter des noix, c'est maintenant qu'on les ajoute. Ensuite, on fait monter nos blancs d'œufs en neige et on les incorpore délicatement à la pâte. Donc, pour faire monter les blancs d'œufs en neige, c'est vraiment idéal si vous avez un batteur électrique, là, parce qu'à la main, c'est très, très long et moi, je suis pas capable. En tout cas, je suis pas assez forte. Donc, une fois que nos blancs d'œufs sont en neige, on les incorpore délicatement au mélange. On met dans un moule qu'on fait cuire à 350 Fahrenheit pendant 25 minutes. Moi, ça a été un petit peu plus long que ça, mais ça dépend là, de votre...
Ah, vous l'avez fait?
Oui, oui, moi, le gâteau au betterave, c'est pas exactement ce gâteau-là, mais vraiment similaire. Là. C'est quelque chose que je fais souvent quand j'ai des betteraves. J'adore. Une fois que vous en avez fait une fois, vous allez vouloir le refaire parce que, comme je vous dis, la couleur est vraiment spectaculaire. C'est,
ouais.
C'est très et c'est délicieux. Évidemment, c'est comme du gâteau aux carottes. On ne goûte pas les carottes à l'intérieur. Mm-hmm. Ça goûte le gâteau.
Puis on peut mettre un glaçage aussi au fromage à la crème.
Oui, tout à fait. J'ai déjà fait ça puis c'est vraiment super bon.
Et vous terminez avec la salade de repas aux betteraves.
Oui, voilà. Encore une fois, vous avez pu garder de vos betteraves cuites pour la salade de repas aux betteraves. C'est vraiment une très belle salade avec donc une demi-tasse de quinoa, deux tasses de betteraves en dés. Et là, c'est des betteraves cuites. En tout cas, moi, je les ai utilisées cuites. C'est pas spécifié dans la recette, mais les betteraves en dés crues, ça serait pas très bon, d'après moi, dans une salade.
Non.
Une pomme Granny Smith, mais vous pouvez aussi vous lâcher là, c'est essayer une des nouvelles variétés qu'on vient de découvrir ensemble. Un quart de tasse de canneberge séchée, trois oignons verts tranchés en rondelles fines, trois cuillères à table de persil frais italien. Là, si vous êtes vraiment wild, vous pouvez mettre la coriandre à la place. Si vous êtes de ceux qui aiment la coriandre, personnellement, moi, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais moi, tu vois, je trouve très bon. Et donc, on a pour la vinaigrette, une cuillerée à table et demie d'huile d'olive, une cuillère à table de vinaigre de cidre, une demi-cuillère à table de sirop d'érable. Le sirop d'érable, toujours bon dans une salade. Un peu de sel, un quart de cuillère à thé, une demi-cuillère à thé de poivre. Évidemment, là, c'est au goût. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon si vous aimez ça ou non. Un quart de tasse de fromage feta en petits cubes. C'est très bon avec du fromage feta vegan. Évidemment, là, ça va être moins protéiné parce que le fromage feta vegan, normalement, il n'y a pas autant de protéines, dépendamment là, du type que vous utilisez. Et encore une fois, on a un tiers de tasse de noix de Grenoble grillées hachées grossièrement. Moi, je ne les ai pas mis parce que, encore une fois, je suis allergique, mais souvent, j'ajoute des graines de citrouille ou dernièrement, j'ai découvert les graines de caméline. Oh my God, c'est tellement bon.
Oh my God, merci beaucoup.
Oh my God. Et donc, c'est ça. Donc, vous faites cuire votre quinoa, vous mélangez le tout et super belle salade. Vous laissez refroidir complètement le quinoa avant de faire la salade.
C'est tellement bon. Et aussi, tout simplement, des betteraves bouillies et on les coupe en tranches puis on ajoute un peu de beurre et on est au paradis ou presque, au paradis de la betterave.
Les betteraves, je peux manger ça n'importe comment.
Oui, c'est tellement bon. Puis c'est bon pour la santé en plus. Merci Isabelle pour tout ça.
Merci, bonne journée.
Toi aussi. Tout est arrondi. Tout est arrondi. Tout est arrondi. Tout est arrondi. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, aujourd'hui. Au grand soleil, en plein midi, on attendait le même faveur. Lui à pied et moi dans ma corvette. J'ai dit, veux-tu un left? Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Chez lui, oh, je suis montée à son appartement. Entre la terre et le firmament, il m'a offert un drink.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je fais mon possible.
Prends-tu de l'eau dans ton whisky?
Non, je le prends
que tu fais dans la vie?
Je fais mon possible.
Prends-tu de l'eau dans ton whisky?
Non, je le prends straight. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, 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 oh. Aujourd'hui, ça suffit, oh, mon horoscope me l'avait prédit. Quand je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. J'ai deviné son signe. Aujourd'hui, j'ai rencontré.
La chronique Les nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Au Parlement canadien, les députés francophones vont souvent vers l'anglais pour être entendus.
Oui, c'est une partie de ce que vous avez dit est une citation qui est un bout de phrase qui vient du chercheur Aditya Viswewaran qui a mené une recherche sur l'utilisation du français à la Chambre des communes à Ottawa par les élus. On s'est pas penché sur les fonctionnaires, mais vraiment sur les députés, les gens qui sont élus à la Chambre. Selon les entrevues qu'il a menées avec plusieurs députés, ça peut être difficile de s'exprimer en français et d'être compris au Parlement canadien et dans les comités. Il y a certains députés francophones qui ont remarqué et qui lui ont dit que des collègues anglophones ne mettaient même pas l'écouteur qui leur permet d'avoir accès aux traductions simultanées. Parfois, ça oblige les francophones à changer vers l'anglais pour se faire comprendre par tout le monde, parce que ces députés-là, sinon, sans traduction, ne comprennent pas. Il parle aussi de l'importance de la présence du Bloc québécois au Parlement canadien pour assurer une plus grande présence du français, parce qu'il explique que les députés francophones de l'extérieur du Québec, qui sont souvent bilingues, plus que des députés du Bloc, et ils peuvent plus facilement passer de l'anglais au français à l'anglais, alors que les députés du Bloc québécois n'ont pas cette aisance-là et insistent un peu plus sur l'utilisation du français. Donc, il y a souvent des... Donc, c'est pas généralisé par parti. Dans chaque parti, il y a des champions de la langue française, on pourrait dire, des députés qui font des efforts particuliers pour inclure la minorité francophone dans les projets de loi ou quelque chose qui prend la langue en considération. Donc, c'est une recherche sur laquelle on a écrit, là, mais la conclusion, c'est que quand on veut quand même parler en français au Parlement, ça peut entraîner plusieurs complications.
Merci, champion. Merci, oh, champion. Terre-Neuve et Labrador à la recherche d'un gouvernement transparent.
Le Gaboteur résume deux grands enjeux de transparence qui font partie des débats pendant la campagne électorale provinciale qui a lieu en ce moment à Terre-Neuve et Labrador. L'élection va avoir lieu le 14 octobre. Dans l'article, selon la politologue Amanda Bittner de la Faculté des sciences politiques de l'Université Memorial à Terre-Neuve, le plus gros sujet de la campagne, c'est évidemment l'entente de Churchill Falls avec le gouvernement du Québec. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que cette entente fonctionne, mais surtout qu'elle soit bonne pour la province parce qu'elle pourrait être bénéfique pour les finances qui vont pas très bien à Terre-Neuve et Labrador. Le problème, c'est qu'il y a une perception de manque de transparence sur ce que contient exactement cette entente-là. On ne sait pas si ça va être aussi profitable que ce que les gouvernements disent pour l'instant. Il y a un autre événement un peu surprenant qui est arrivé, qui remet en jeu la transparence du gouvernement libéral sortant. C'est un rapport sur l'éducation qui a été publié le 28 août. Le but de ce rapport-là, le but du gouvernement, c'était de transformer l'éducation dans la province de la petite enfance jusqu'à l'université. Puis tout ça au cours des 10 prochaines années. Cependant, il y a des sources citées dans le rapport qui n'existent pas. Par exemple, on y parle d'un film de l'Office national du film, mais ce film-là, le titre de ce film apparaît seulement dans un guide de style d'une université, puis le guide en question prévient que certains exemples dans le guide peuvent être des sources fictives. Il y a un chercheur qui dit que ça, c'est un indice assez fort, que l'intelligence artificielle a été utilisée pour écrire le rapport, ce qui démontre au minimum un manque de rigueur dans la préparation du document et au maximum un certain laxisme qui pourrait créer des gros problèmes dans dans la transformation de l'éducation.
Par ailleurs, Julien, je ne sais pas si c'est lié au laxisme, il y a un problème ou des problèmes de transport au Nouveau-Brunswick.
Bien, il y a, moi, comme vous dites, je ne sais pas si c'est du laxisme, mais il y a plusieurs problèmes qui touchent le transport en ce moment au Nouveau-Brunswick. En fait, plusieurs textes de l'Acadie Nouvelle qui viennent pas mal du même problème. C'est que la semaine dernière, Air Canada a annoncé qu'ils allaient suspendre leurs activités à l'aéroport de Bathurst à partir du 26 janvier 2026. Donc, plus de vols d'Air Canada à l'aéroport de Bathurst qui est dans le nord du Nouveau-Brunswick. C'est une décision qui limite beaucoup la possibilité de déplacement dans cette région-là de la province. D'ailleurs, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a déposé une plainte officielle auprès du commissaire aux langues officielles du Canada. Pour eux, cette décision-là va entraîner une perte d'opportunités de développement économique pour les francophones et ça a des désavantages par rapport au Sud, qui est plus anglophone et qui continue à être desservi par Air Canada. Et je vous rappelle qu'Air Canada est sous la juridiction du commissaire aux langues officielles du Canada. Donc, ils peuvent déposer cette plainte-là. Reste au commissaire à décider si elle est recevable. À la suite de cette annonce-là, le journal l'Acadie Nouvelle a exploré la question du transport sans voiture dans le nord de la province. Une des choses qu'ils ont constaté, c'est qu'il n'y a aucun service d'autobus, donc disons de transport en commun, entre le Nouveau-Brunswick et le Québec qui passe par Edmundston. Donc, il n'y a pas de moyen autre que la voiture de traverser cette frontière-là. Par exemple, comme ils disent dans l'article, si quelqu'un d'Edmundston veut aller voir un spectacle à Montréal, il y a presque absolument besoin d'une voiture. Le train passe par là, mais il n'est pas très régulier ni super fiable. Il y a beaucoup de retard. Pour l'instant, donc, la voiture et le covoiturage sont les meilleurs moyens de voyager entre les deux provinces. Il y a des compagnies comme Flexigo et Maritime Bus qui seraient prêtes à offrir du service jusqu'à Rivière-du-Loup, mais il y aurait besoin d'un bon plan d'affaires et d'un peu d'aide du gouvernement.
Une partie de ballon chasseur bien particulière.
Oui, c'était entre un groupe de sans-abri et un groupe de policiers. Puis ça s'est passé à Nipissing West, là, ici dans le nord de l'Ontario. L'idée vient en fait d'un client de l'organisme No More Tears qui aide les sans-abri de cette communauté-là. Le match entre les deux équipes était en fait ça a servi de collecte de fonds, puis on a réussi à recueillir 2 500 $ avec la partie, plus un autre 2 000 $ qu'un magasin de confiserie locale a fait en profit avec un petit kiosque sur le site, et ils ont tout remis ça à l'organisme aussi. En plus de la collecte de fonds, le match a permis aux sans-abri et aux policiers de se rencontrer et de discuter dans un contexte différent, là où il n'y a pas la relation de pouvoir qu'il y a habituellement quand ils se rencontrent. Disons, souvent les policiers sont appelés à intervenir auprès des sans-abri pour leur demander de se déplacer ou pour d'autres raisons moins agréables, on va dire. C'était la première fois que les organisateurs faisaient cet événement-là, mais ça a tellement bien fonctionné, c'était tellement positif qu'ils ont bien l'intention de faire quelque chose d'encore plus gros l'année prochaine.
Bon, alors tant mieux. Est-ce que vous êtes un bon joueur de ballon chasseur, vous, Julien?
J'étais pas trop mal quand j'étais tout jeune. Je sais pas si mes muscles le feraient encore bien.
Moi, j'avais peur du ballon. Alors, on reste dans les jeux, cette fois les jeux de la francophonie canadienne à Regina.
L'Eau vive nous rappelle que ces jeux-là vont avoir lieu en 2028 à Regina. Puis il y a deux associations francophones qui ont organisé une exploration de la ville, de ses attractions touristiques, aussi des commerces, des services et des ressources francophones. C'est surtout les jeunes de la ville et de la province qui étaient invités, ainsi que les nouveaux arrivants, qui étaient le public cible. C'est que le but, c'était de leur faire découvrir des coins qu'ils pourraient ne pas connaître, des choses en français qui existent à Regina, qu'ils pourraient ignorer, mais aussi leur donner envie d'être des ambassadeurs pour la ville et peut-être de devenir des bénévoles pour les Jeux de la francophonie, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de bénévoles pour cet événement-là. On espère quand même que insufflant cette fierté d'habiter à Regina, ça va se poursuivre même après les Jeux.
Mm-hmm. Ça s'en vient donc en 2028.
Ouais.
Et pour terminer, le syndicat enseignant francophone de la Colombie-Britannique demande la démission de 5 membres du conseil scolaire.
Au cours de l'été, le syndicat des enseignants et enseignantes du programme francophone de la Colombie-Britannique a demandé la démission de 5 des 7 membres du conseil d'administration du conseil scolaire francophone. Le syndicat reproche en fait au conseil d'imposer un fardeau financier trop lourd qui réduit les services les services aux élèves et la qualité de l'enseignement. Ce que je vous rappelle, c'est que le conseil scolaire a intenté une poursuite contre le gouvernement et le conseil scolaire anglophone pour obtenir des droits d'expropriation et accès à des édifices et des terrains que le conseil scolaire n'utilise plus. Et malgré les négociations, ça n'avançait pas. Donc, le conseil scolaire francophone est allé en justice. Ils ont gagné au mois de juin. Mais partiellement, il y a un juge qui leur a donné une raison, mais leur a quand même n'a pas répondu à toutes leurs demandes. Et cette cause-là a créé, c'est un peu difficile de le voir, là, le conseil n'est pas clair là-dedans, mais ils ont reconnu pendant une réunion qu'ils ont un déficit pour l'année 2024-2025 qui va devoir être remboursé à la province pour l'instant, mais il y a d'autres choses en cours sur qu'elle ferait pour l'instant. Donc, le conseil scolaire a décidé d'aller en appel malgré la réticence de plusieurs partenaires du conseil, dont deux syndicats avec qui ils ont parlé, qui disent que vraiment 5 des 6 groupes à qui ils ont parlé étaient contre aller en appel et le conseil est allé quand même. Donc, la lettre a été envoyée en juillet, mais le conseil scolaire n'a pas encore répondu officiellement aux syndicats pour dire si quelqu'un allait démissionner ou non.
Un article tiré de La Source. Merci beaucoup, Julien. Bonne journée.
Bonne journée.
triste nouvelle, l'une des pionnières de la presse parlementaire québécoise, Gisèle Galichan, a été emportée par une hémorragie cérébrale foudroyante lundi à sa résidence de Sainte-Pétronille à l'Île-d'Orléans. Elle était âgée de 79 ans, originaire du quartier populaire de Limoilou à Québec. La fille de l'ancien chroniqueur judiciaire Lionel Galichan envisage d'abord une carrière au théâtre avant de se tourner vers la radio. En 67, elle fait son entrée à la tribune de la presse du Parlement de Québec pour la station CJLR à l'âge de 21 ans seulement. Nos condoléances à toute sa famille et à ses proches.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
1969, Collective et Safia Nolin, tu danses Condessa.
On poursuit la série « Tout ce que vous souhaitez et devez savoir au sujet de prêt numérique » en compagnie de Christiane Campagna, chargée de communication chez Bibliopresto. Je rappelle que Bibliopresto est un organisme qui appuie les bibliothèques en leur offrant des services numériques. Bonjour Christiane.
Bonjour Hélène.
Aujourd'hui, on commence avec une question qui concerne l'accessibilité. Est-ce qu'on trouve des livres, accessibles sur prêt numérique?
Oui, on en trouve. Là, ça, c'est une question quand même vaste et très canalème. Alors, on va prendre le temps de la décortiquer. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne trouve pas des livres en format DAISY sur prêt numérique. Pour ça, il faut être inscrit au service québécois du livre adapté. Les auditeurs de Canalem connaissent un peu la procédure, là. Ça prend un diagnostic. Tout ça, vous avez tous les renseignements sur le site de BNQ parce que le SQLA, lui, est géré par BNQ. Mais on trouve sur prêt numérique des livres numériques commerciaux, des livres audio commerciaux aussi. Et eux ont des fonctions d'accessibilité. Bon, déjà, en partant un livre audio, c'est quand même plus accessible qu'un livre papier en partant. Donc, on en trouve généralement une bonne sélection. Ça dépend, encore une fois, de la bibliothèque à laquelle vous êtes abonné. Mais les livres numériques, pas imprimés, mais les livres écrits, là, les livres numériques réguliers aussi ont souvent des fonctions d'accessibilité, comme pouvoir changer le contraste, pouvoir grossir les caractères et, dans certains cas, la voix de synthèse aussi est disponible sur certains livres. Mais c'est, au fond, l'accessibilité dépend aussi de l'éditeur, comme la disponibilité d'un livre numérique. C'est chaque éditeur qui s'occupe des métadonnées et qui s'occupe de rendre son livre accessible. Donc, ce n'est pas Prénumérique qui crée les versions numériques et ce n'est pas Prénumérique qui leur ajoute des fonctions d'accessibilité.
Ah, d'accord, c'est l'éditeur.
C'est ça. Donc, pour savoir si un livre est accessible, par contre, depuis un an et quelques, dans le catalogue de Prénumérique, c'est vraiment bien indiqué. Il y a toutes sortes d'indications à savoir si c'est un livre qui est conforme avec la voix de synthèse, si c'est un livre qui permet de grossir les caractères, tout ça. Et c'est même possible maintenant de filtrer les recherches dans le catalogue, disons qu'on cherche dans le catalogue de BNQ, de filtrer nos recherches de livres par critères d'accessibilité.
Alors, c'est la façon de savoir si le livre est accessible.
C'est ça. Parce que ça dépend beaucoup du format à la base. Il y a trois grands formats de livres. Il y a numérique, il y a des PDF et il y a des EPUB de première génération qui, eux, sont pratiquement une photo du livre. C'est plus courant dans les livres illustrés, les albums jeunesse, les livres pour enfants. C'est vraiment difficile d'avoir des fonctions d'accessibilité sur ces livres-là. Tandis que les générations plus récentes de EPUB, eux, permettent, au fond, à la technologie, à l'application mobile, par exemple, ou à la liseuse, de lire le livre mot par mot, donc, par exemple, d'ajouter la voix de synthèse.
Et à qui dois-je m'adresser si j'ai des problèmes, par exemple, pour ouvrir un livre, pour le rendre avant la date prévue, des problèmes techniques?
Il faut vraiment vous adresser à votre bibliothèque. Parce que, encore une fois, Prénumérique, on fournit la plateforme aux bibliothèques, mais à partir du moment où on entre dans l'empreinte d'un livre ou à rendre un livre, on est dans le dossier usager. Et le dossier usager, ça, c'est vraiment géré par la bibliothèque, avec des systèmes informatiques qui peuvent varier d'une bibliothèque à l'autre, et aussi des politiques qui peuvent varier d'une bibliothèque à l'autre sur est-ce qu'on a le droit d'emprunter un livre si on a un livre en retard, parce que c'est relié dans votre dossier. Si vous avez un livre en retard en papier, ça se peut que vous ne puissiez pas emprunter de livres numériques selon la politique de la bibliothèque. Alors, c'est vraiment pour ça que c'est eux qu'il faut aller voir quand on rencontre des problèmes techniques et aussi pour du support si on est un néophyte en livre numérique, mm-hmm. qu'on veut savoir comment télécharger l'application, tout ça. Rendez-vous à votre bibliothèque.
Et physiquement, là, on ne peut pas entrer en communication
ça dépend
d'une autre façon.
Ça dépend du problème. C'est que si vous voulez vous faire expliquer comment télécharger tout ça, des fois, c'est plus facile
en personne.
Mais vous pouvez aussi souvent les contacter là, par courriel si c'est un problème avec un livre. Mais c'est eux, et si eux frappent un mur, là, ils vont nous contacter parce qu'à ce moment-là, ça voudra dire que c'est peut-être plus leur système informatique à eux, ça peut être l'entrepôt où sont les livres numériques, le distributeur, tout ça. À ce moment-là, nous, on entre en œuvre.
Vous intervenez.
On intervient, mais c'est à la demande des bibliothèques.
D'accord. Est-ce qu'on trouve des livres, là, on va dans les questions en vrac, là, est-ce qu'on trouve, vous en avez parlé tantôt, des livres jeunesse sur Prénumérique, ça existe?
Oui, on trouve des livres jeunesse sur Prénumérique. Encore une fois, c'est un des critères. Vous pouvez chercher vos livres par fiction, chercher vos livres par public, adulte, enfant. On en trouve sur Prénumérique, mais il est intéressant aussi de savoir, je vais faire une mini-parenthèse, que si votre enfant va dans une école publique du Québec, ou même la plupart des écoles privées et les écoles des Premières Nations, maintenant ont aussi leur propre système de prénumérique scolaire qui s'appelle Biblius.
Biblius.
Oui, alors c'est sur le portail de votre enfant là, à l'école que vous allez trouver ça.
Est-ce qu'on trouve des livres en anglais?
Très peu. Sur Prénumérique, c'est vraiment là pour desservir la clientèle québécoise francophone. Plus, les bibliothèques qui ont beaucoup d'abonnés anglophones vont généralement faire appel à un autre service pour prêter des livres anglophones. Le plus souvent, c'est le service Libby, qui est un service américain associé mm-hmm. à la compagnie Overdrive. Il y a des bibliothèques canadiennes aussi qui ont Bibliotheca. Donc, c'est un autre service qui fait du prêt numérique en deux mots. Mais ce n'est pas Prêt numérique qui a la meilleure, où vous allez trouver les meilleures collections de livres francophones.
D'accord. Alors, Libby, on se retourne vers cette plateforme-là si on veut avoir des livres en anglais.
Oui, elle est disponible à Montréal, elle est disponible à BNQ et dans plusieurs autres villes.
L-I-B-B-Y. Et si on part en voyage, est-ce qu'on peut emprunter des livres?
Ça aussi, ça dépend de où vous allez en voyage et de votre bibliothèque. Oui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est la bibliothèque qui gère l'accès. À partir du moment où vous entrez vos identifiants, c'est plus auprès de Prêt numérique que vous vous identifiez, c'est auprès de votre bibliothèque. Et les politiques, encore une fois, varient d'une bibliothèque à l'autre. Il y a des bibliothèques qui ne permettront pas de se brancher à partir d'une adresse IP qui est en dehors du pays. Donc, le plus prudent, c'est d'en emprunter le maximum permis avant de partir.
Ouais.
Et aussi, dans le cas de vos livres audio, c'est très bon de les télécharger d'avance pendant que vous êtes sur le Wi-Fi pour ne pas utiliser vos données pendant les déplacements quand vous les écoutez.
Excellent conseil. Et en terminant, est-ce qu'on peut lire des magazines sur Prêt numérique?
Il y a seulement quelques revues de la SODEP, là, du genre Nouveaux projets ou Continuité, dont on peut trouver des exemplaires là, selon les bibliothèques dans Prêt numérique. Pour les magazines, ce sont d'autres applications qui rentrent dans la catégorie des autres ressources numériques dont je vais parler dans les prochaines chroniques.
Oui, parce qu'il y en aura d'autres chroniques en compagnie de Christiane Campagna, chargée de communication chez Bibliopresto. Merci, Christiane.
Je vous en prie.
Étienne Dao, Saoudade.
Les impatients ont inauguré leur grand atelier de Montréal, c'était mercredi dernier, avec l'exposition intitulée « Ailleurs, ici ». Depuis plus de 30 ans, les impatients viennent en aide aux personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Et je parle des impatients et aussi de cette exposition en compagnie de la nouvelle porte-parole de l'organisme Les Impatients. Elle s'appelle Sophie Fouron. J'imagine que vous la connaissez bien. On vous connaît de plus en plus parce qu'on vous entend et on vous voit de plus en plus. Bonjour, Sophie.
Bonjour, Hélène. Ça me fait plaisir de vous parler.
Ben moi aussi, ça me fait plaisir que vous ayez accepté notre invitation, vous qui êtes pas mal occupée par les temps qui courent.
Oui.
Alors, Sophie, qu'est-ce qui vous a particulièrement touchée dans la mission des impatients pour dire oui lorsqu'ils vous ont approché, j'imagine, pour devenir la porte-parole?
Oui, en fait, je connaissais les impatients. Ça fait quand même 33 ans cette année qu'ils existent. Et je trouve qu'au-delà des ateliers créatifs qui font sentir mieux, en fait 90% des participants se disent se sentir mieux après. Donc au-delà de ces ateliers créatifs là, ce que je trouve vraiment beau avec les impatients, c'est la mission d'inclusion. Je trouve que il faut laisser personne derrière. Tu sais, c'est vraiment de malgré la maladie, malgré parfois l'isolement que peuvent sentir certains patients qui souffrent de problèmes de santé mentale, bien, c'est important de garder le lien avec la communauté, avec les gens, et par le biais des ateliers créatifs, bien, ils permettent ça. Puis moi, je trouve ça vraiment très beau de se tenir puis d'être solidaire.
Et Sophie, l'art est au cœur, bien sûr, de la mission des impatients. Est-ce que... j'imagine que vous y croyez, là, vous adhérez totalement à la mission, mais en quoi, selon vous, la création artistique peut être bienfaitrice, thérapeutique même?
Oui, oui, salutaire. Bien, je pense qu'on s'en rend compte même quand on chante nous-mêmes, quand on danse, quand on s'abandonne à une peinture ou à un coloriage. C'est tout de suite, on sent les bienfaits. Alors, quand on a des troubles plus majeurs, comme la schizophrénie, par exemple, et la bipolarité, et je ne suis absolument pas experte en psychiatrie, mais je peux imaginer que cette création libre, c'est comme un abandon où est-ce qu'il n'y a pas d'impératif de performance, où est-ce qu'il n'y a aucune injonction de beauté, où est-ce qu'il n'y a pas d'échéance même, parce que les ateliers des impatients, on peut commencer et faire ça toute la vie, si ça nous chante. C'est pas que 10 sessions, puis après, c'est terminé. C'est vraiment une prescription qui est pour la vie, si c'est possible. En tout cas, c'est pour ça que les impatients sont si importants. C'est que c'est vraiment ouvert et libre. Donc, je peux imaginer, en fait, c'est prouvé que ça leur fait du bien et ça fait une différence dans leur vie. Ça soulage, ça libère. Et certains deviennent des artistes ou se découvrent artistes. C'est ça qui est magnifique parce que ils soupçonnaient peut-être pas tout le potentiel qu'ils avaient. Puis en étant accompagnés dans ces ateliers, parce qu'il y a toujours un artiste accompagnateur dans chaque atelier, il y a quelque chose qui se révèle et puis ça c'est magique, là, j'imagine bien.
Le Grand Atelier de Montréal a donc ouvert ses portes après un événement dramatique, l'incendie de leurs anciens locaux en 2023. Et j'imagine que c'est un nouveau départ?
Bien, c'est un nouveau départ parce que tout est concentré maintenant au Grand Atelier qui est au 5800 Saint-Denis, pour ceux qui voudraient aller le voir, au septième étage. Donc, c'est devenu vraiment le centre névralgique de toutes les activités des impatients, en plus d'avoir la réserve des œuvres, parce qu'ils ont des milliers d'œuvres des impatients et des artistes accompagnateurs. Ils ont leur bureau administratif. Ils ont 3 ateliers aussi, donc, de musique, de peinture et qu'est-ce qu'ils ont de chant aussi. Et donc, tout est concentré là. Et la boutique, je ne sais pas si vous avez déjà été voir la boutique des impatients, mais c'est vraiment magnifique.
Oui.
Choisi avec beaucoup, beaucoup de goût. Donc, c'est vraiment devenu comme un hub, là, un pôle, un lieu de référence de l'art, de la santé mentale. C'est une très bonne chose, finalement. Il y a comme de la lumière à travers cet événement dramatique qui a été l'incendie au monastère du Bon Pasteur.
L'exposition inaugurale s'intitule « Ailleurs, ici ». J'imagine que ça a un lien avec le mouvement qu'a connu l'organisme avec cet incendie-là.
Ben oui, c'est finalement ils sont ancrés dans ce nouveau lieu, mais c'est aussi comme le parcours des impatients dans leur tête, peut-être un cheminement intérieur propre à chaque participant. C'est ça qui est fascinant, c'est d'être capable de voyager, de créer, puis de le coucher sur un papier avec de la peinture, ou en sculpture, ou en bande dessinée. Ils font toutes sortes de choses, et puis il y a des magnifiques œuvres des impatients à cette exposition-là, et aussi des artistes responsables des ateliers. Puis c'est vraiment très touchant, très beau de voir ça, puis ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut la peine. C'est jusqu'au 18 octobre.
Oui.
Et j'invite tout le monde à aller voir ça.
Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a plus touché qu'une autre?
Oh mon Dieu! Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, puis ça va dans tous les sens. Il y a des sculptures, il y a évidemment de la peinture, il y a même un costume qui est accroché. Il y a tout ça. C'est vraiment, ça va dans tous les sens. Je passe d'enchantement à d'étonnement vraiment, je suis à chaque fois soufflée par l'imagination puis la créativité. Parce que il y a tout ce mouvement d'art brut. Donc,
c'est souvent très coloré, hein?
C'est très coloré et c'est vraiment une expression de l'inconscient. Quand il y a des malades qui sont parfois non-verbaux ou quand ils sont atteints de grandes maladies mentales, ben leur expression, c'est vraiment une expression de l'inconscient, puis ça devient une incursion dans leur âme. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Et ben je suis au début de ma collaboration avec eux, puis je suis émerveillée par tout ce que je découvre.
Alors, vous êtes une porte-parole merveilleuse, j'imagine, si vous êtes émerveillée. Et comment le public peut soutenir les impatients au-delà de la visite de l'exposition?
Bien, il y a l'Encan par le mois d'amour qui est à sa 26e année d'existence à Montréal et qui se manifeste aussi dans différents ateliers à travers la province. L'Encan par le mois d'amour, c'est donc un encan d'œuvres des impatients et des artistes responsables d'ateliers et d'autres artistes de renom. Et les œuvres sont mises à l'encan. C'est un encan silencieux du 7 au 27 novembre. Ça se passe au Grand Atelier des Impatients. Et le 27 novembre, ben, c'est l'encan crié, où est-ce que là, il y a des œuvres, des collections privées, des dons plus significatifs, et les gens peuvent aller, si ça les intéresse, se procurer des œuvres des Impatients et d'autres artistes tout aussi merveilleux.
Super.
C'est vraiment un rendez-vous très, très couru et un événement phare là, dans le milieu artistique maintenant.
J'imagine que vous serez présente à cet encan.
Je serai là le 27 novembre, oui, bien sûr. Mais regardez, je ne sais pas si je vais acheter des œuvres. Je suis très... je suis encore néophyte, mais tout ça m'interpelle et m'intéresse beaucoup.
Et oui, on peut en acheter des œuvres, justement, si on se rend à l'exposition.
Tout à fait. On peut acheter des œuvres, on peut aussi acheter des posters, là,
des affiches.
Des affiches.
Des lithographies.
Des cartes. Il y a toutes sortes de choses, des représentations des différentes œuvres sur différents formats et... C'est vraiment un monde qui s'ouvre à nous, finalement.
Alors, l'exposition « Ailleurs, ici » présentée, on le rappelle, jusqu'au 18 octobre. Ça va vite quand même, au Grand Atelier de Montréal, qui est au 5800 rue Saint-Denis, tout près du métro Rosemont.
Et
pour faire un don, en savoir plus, l'adresse impatient@pluriel.ca. Et sinon, Sophie Fouron, qu'est-ce qui vous occupe particulièrement cette année? On vous entend à la radio à tous les lundis, à l'émission Pénélope.
Oui, une collaboration qui me prend quand même un peu de temps parce qu'on réfléchit à comment on veut amener ça, ce fameux club social de Pénélope avec Simon Coutu lundi matin. Là, je m'en vais tout à l'heure à On va se le dire, où je collabore avec Sébastien Diaz régulièrement. J'écris toujours dans Réel Québec et puis j'ai des projets dont je peux pas parler, mais j'espère pouvoir vous en parler bientôt.
Nous serons à l'affût.
Ben oui, j'espère. Merci d'être à l'affût.
Mais bonne saison, puis au plaisir de vous entendre et de vous voir là où vous êtes. Merci beaucoup, Sophie Fouron.
C'est moi qui vous remercie, Hélène. C'est un plaisir.
Endurance était super plage avec le couleur.
Amis télé nous invite à découvrir Tous en chœur, une nouvelle série qui explore le lien profond entre la musique et le cerveau. À travers 8 épisodes, Grégory Charles se lance dans une quête visant à démontrer comment la musique peut ralentir la dégénérescence cognitive et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ça commence ce soir sur Amis télé à compter de 20h. Et qu'est-ce qui commence ce soir? Go Habs Go! La vraie compétition qui commence. Les Canadiens de Montréal affronteront les Maple Leafs de Toronto. C'est à ne pas manquer pour tous ceux et celles qui sont des amateurs de hockey. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde. Ici Hélène Denis. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Bon long week-end de l'Action de grâce. Demain, c'est Denis Martin qui sera avec vous.